Madame Guillon, chapitre 5e. Imperfection de ce premier degré, sécheresse. L'âme qui est, dans le degré dont je viens de parler, y peut avancer beaucoup, et y avance aussi très fort, allant d'amour en amour, et de croix en croix. Mais elle tombe si souvent, et elle est si propriétaire, que l'on peut dire qu'elle ne va qu'à pas de tortue. Quoiqu'elle paraisse à elle et aux autres courir infiniment. Ici, ce torrent est dans un pays uni. Il n'a pas encore trouvé la pente de la montagne pour se précipiter et prendre une course qui ne doit plus être arrêtée. Les défauts de l'âme dans ce degré sont une certaine estime d'elle-même, plus cachée et plus enracinée qu'elle n'était avant que d'avoir reçu ses grâces et faveurs de Dieu. Un certain dédain et mépris secret des autres que l'on voit si éloignés de sa voie, une facilité à se scandaliser de leurs fautes et une certaine dureté pour les péchés et pour les pécheurs. Un zèle de Saint Jean avant la venue du Saint-Esprit, qui voulait faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains pour les consumer. Une certaine confiance en son salut et en sa vertu, en sorte qu'il semble que l'on soit impeccable. Un orgueil secret qui fait, principalement au commencement, qu'on a peine des fautes qu'on a faites en public. On voudrait être impeccable, on a un maintien recueilli, et ce recueillement paraît aux autres. On se rend propriétaire des dons de Dieu, et on en fait comme s'ils étaient à nous. On oublie sa faiblesse et sa pauvreté, par l'expérience qu'on a de sa force, en sorte qu'on perd la défiance de soi-même, et qu'on ne craint point de s'exposer aux occasions. Quoique tous ces défauts et plusieurs autres soient dans les personnes de ce degré, elles ne les connaissent point, et il leur paraît même plus d'humilité qu'aux autres, à cause que leur humilité est plus comprise. Mais patience, ces défauts se feront sentir et toucher en leur temps. La grâce qu'elles sentent si fort en elles-mêmes, leur étant un témoignage qu'il n'y a rien à craindre pour elles, elles s'exposent sans mission divine à parler. Elles voudraient communiquer ce qu'elles sentent à tout le monde. Il est vrai qu'elles font quelque bien aux autres, car leurs paroles, toutes de feu et de flamme, embrasent les cœurs qui les écoutent. Mais outre qu'elles ne font pas le bien qu'elles feraient si elles étaient dans le degré où l'ordre de Dieu porte à répandre ce que l'on a, c'est que leur grâce, n'étant pas encore en plénitude, elles donnent de leur nécessaire, au lieu de ne donner que de leur abondance, en sorte qu'elle se dessèche elle-même. Comme vous voyez plusieurs bassins d'eau au-dessous d'une fontaine, la seule fontaine donne sa plénitude, et les autres bassins ne se répandent les uns dans les autres que de la plénitude que la source leur communique. Mais si on bouche et si on détourne la source et que les bassins ne laissent pas de couler, alors comme ils n'ont plus de source, ils se dessèchent eux-mêmes. C'est ce qui arrive aux âmes de ce degré. Elles veulent sans cesse répandre leurs eaux, et elles ne s'aperçoivent que tard que l'eau qu'elles ont n'était que pour elles, et qu'elles ne sont pas en degré de la communiquer parce qu'elles ne sont pas en source. Elles sont comme ces fioles de liqueur que l'on répand. On trouve tant de douceur dans l'odeur qu'elles rendent en s'épanchant que l'on ne s'aperçoit pas de la perte que l'on en fait. C'est dans ce degré où on prend aisément le change, prenant le moyen pour la fin, et comme il est très long en certaines âmes, et que même il y en a quelques-unes qui ne le passent pas, on prend cet état principalement sur la fin, pour l'état consommé, ce qui est bien se méprendre. Il est vrai qu'il y a bien du rapport, et à moins que le directeur n'ait passé tous les états, il croira aisément que l'âme est dans la consommation, quoiqu'elle en soit infiniment éloignée. Et ce qui le lui fait croire plus aisément, c'est que l'âme pratique toutes les vertus avec une force admirable. Elle se surmonte aisément, elle ne trouve rien de difficile, parce que l'amour est fort comme la mort. Il faut remarquer aussi que les vertus paraissent être venues dans l'âme sans aucune peine, car l'âme dont je parle n'y pense pas, puisque toute son occupation est un amour général, sans motif ni raison d'aimer. Demandez-lui ce qu'elle fait à l'oraison et durant le jour, elle vous dira qu'elle aime. Mais quel motif ou quelle raison avez-vous d'aimer? elle n'en sait ni n'en connaît rien. Tout ce qu'elle sait est qu'elle aime et qu'elle brûle de souffrir pour ce qu'elle aime. Mais c'est peut-être la vue des souffrances de votre bien-aimé, ô âme, qui vous porte ainsi à vouloir souffrir. Hélas, dira-t-elle, elles ne me viennent pas dans l'esprit. Mais est-ce donc le désir d'imiter les vertus que vous voyez en lui? Je n'y pense pas. Mais que faites-vous donc? J'aime. N'est-ce pas la vue de la beauté de votre amant qui enlève votre cœur? Je ne regarde pas cette beauté. Qu'est-ce donc? Je n'en sais rien. Je sens bien dans le plus profond de mon cœur une blessure profonde, mais si délicieuse que je me repose dans ma peine, faisant mon plaisir de ma douleur. L'âme croit alors avoir tout gagné et tout consommé, car quoique elle soit pleine de défauts que je viens de dire, et d'une infinité d'autres très dangereux, qui se sentent mieux dans le degré suivant qu'ils ne se peuvent exprimer, alors elle se repose dans la perfection qu'elle croit acquise, et s'arrêtant au moyen qu'elle croit être la fin, elle y demeurerait toujours attachée si Dieu ne faisait rencontrer à ce torrent, qui est comme un lac paisible sur le haut de la montagne, la pente de la montagne pour le faire précipiter et prendre une course d'autant plus rapide que la chute qu'il fera sera plus profonde. Il me semble que l'âme de ce premier degré, même dans les plus avancés, a une certaine habitude à cacher ses défauts, et à elle et aux autres. Elle trouve des excuses et des prétextes. Elle ne les dit jamais ingénument, non par volonté, mais par un certain amour de sa propre excellence, par une dissimulation habituelle sous laquelle elle se cache. Elle n'a pas tant de paix dans ses misères, au contraire, elle se sent affligée extraordinairement. Elle a un certain empressement de s'en purifier, elle le dit historiquement. Celles qui paraissent le plus sont celles qui lui font le plus de peine. Elle goûte et savoure les dons de Dieu. Elle a un amour d'elle-même secret, plus fort que jamais, une estime de sa voix extraordinaire, un secret désir de se produire, une certaine composition extérieure, une modestie gênée et affectée, un fourmillement de réflexion lorsqu'elle est tombée en quelque défaut apparent, une facilité à juger des autres et, avec tous ses défauts, mille propriétés attachées à ses dévotions. Préférant l'oraison au devoir de sa famille, elle est cause de mille péchés que font ceux avec qui elle est. Ceci est d'extrême conséquence, car l'âme, se sentant attirée d'une manière si douce et si forte, voudrait toujours être seule et en oraison, et elle n'en fait plus que ne porte son état et extérieur et intérieur. Le premier cause mille bruits, fait faire mille fautes, fait négliger les obligations essentielles, et le second épuise peu à peu les forces de l'âme et sa vigueur amoureuse, et lui cause des sécheresses qui, n'étant pas de l'ordre de Dieu, lui nuisent, loin de lui servir. Il arrive de là deux inconvénients. Le premier, que l'âme veut trop être en oraison et en solitude lorsqu'elle en a la facilité. Le second est que lorsqu'elle a épuisé sa vigueur amoureuse, comme c'est par sa faute, elle n'a pas la même force dans la sécheresse. Elle a peine à rester si longtemps en oraison, elle en abrège facilement le temps. Elle va quelquefois se divertir dans les objets extérieurs. Elle s'abat, se décourage, s'afflige, croyant avoir tout perdu, et fait tout ce qu'elle peut pour se procurer la présence et l'amour de Dieu. Mais si elle était assez forte pour tenir une vie égale et ne point faire plus dans l'abondance que dans la sécheresse, elle satisferait à tout. Elle est incommode au prochain, pour qui elle n'a pas de la condescendance, se faisant une affaire de se relâcher un peu pour le contenter. Elle a une sévérité et un silence trop austère où il n'en faudrait pas. Et dans d'autres rencontres, elle a un babil qui ne finit point pour les choses de Dieu. Une femme fera scrupule de plaire à son mari, de l'entretenir, de se promener et de se divertir avec lui, et n'en fera point de parler 2 heures sans nécessité avec des dévots et des dévotes. C'est un abus horrible. Il faut satisfaire à son devoir, de quelque nature qu'il soit, et quelque peine que cela nous cause, quoique même on y croit faire des fautes, et ce procédé nous fera profiter infiniment davantage, non comme nous croyons, mais en nous faisant mourir. Il semble même que notre Seigneur nous fasse connaître que cela lui plaît par la grâce qu'il y répand. J'ai connu une personne qui, jouant aux cartes avec son mari par condescendance, éprouvait une union si forte et si intime qu'elle n'en éprouva jamais de pareille dans l'oraison. Et cela lui était ordinaire dans tout ce que son mari voulait qu'elle fît, quelque répugnance qu'elle y eût. Et si elle y manquait pour mieux faire selon sa pensée, elle connaissait fort bien qu'elle sortait de son état et de l'ordre de Dieu. Ce qui n'empêchait pas que cette personne ne fît souvent de ses fautes, parce que l'attrait du recueillement, l'excellence de l'oraison, que l'on préfère à ces pertes de temps apparentes, entraînent insensiblement l'âme et lui font prendre le change. Et c'est ce qui paraît sainteté en la plupart. Cependant, les âmes destinées à la foi ne font pas longtemps et souvent de ces méprises, parce que, comme Dieu les veut conduire dans son ordre divin, il leur faut bien sentir leur manquement. Mais la différence d'une âme destinée pour la foi et d'une autre est que la dernière demeure dans ses dévotions sans peine. C'est lui arracher l'âme que de la tirer de ce tranquille amour. Mais l'autre n'a pas de repos dans le repos même qu'elle n'ait satisfait à son devoir. Et lorsqu'elle y reste malgré l'instinct de quitter le repos, c'est une infidélité qui lui cause de la peine. Et lorsqu'elle y reste malgré l'instinct de quitter le repos, c'est une infidélité qui lui cause de la peine. Il arrive aussi que l'âme, par cette mort et cette contrariété, se sent plus fortement attachée ou attirée à son repos intérieur, car c'est le propre de l'homme de s'attacher plus fortement à ce qui lui est plus difficile à avoir, du moins s'il a un peu de courage, et de s'affermir par la contrariété, voulant plus fortement les choses auxquelles on s'oppose. Cette peine de ne pouvoir avoir le repos qu'à demi augmente son repos, et fait que, dans l'action même, elle se sentirait d'une manière si forte qu'il semble qu'il y ait en elle deux âmes et deux conversations tout à la fois, et que celle du dedans est infiniment plus forte que celle du dehors. Mais si l'âme veut quitter son obligation pour l'oraison, elle ne trouve plus rien, et son attrait se perd. Je n'entends pas l'oraison d'obligation, et dont on s'est fait un devoir auquel il ne faut manquer que par impuissance. Mais je parle d'une oraison que l'on voudrait rendre continuelle, où on se sent entraîné par la force du recueillement. Je n'entends pas non plus par l'action celle de propre choix, mais celle du devoir absolu. Car si la personne a du temps après avoir satisfait à ses obligations, qu'elle le donne à l'oraison et qu'elle y emploie tout le temps qu'elle pourra, alors cela lui servira infiniment. Et il faut aussi, sous prétexte de l'obligation, ne se point charger d'actions non nécessaires. L'amour de mari, des enfants, de l'économie, pourrait bien se mêler avec le nécessaire. L'empressement naturel d'achever une chose commencée, tout ceci se découvrira aisément par une âme qui ne se flatte pas. Ceci n'est pas si dangereux. Lorsque le recueillement est bien fort, pour l'ordinaire, l'âme ne tombe pas dans ses derniers défauts, mais bien dans les autres, d'excéder dans la retraite. Lorsque la sécheresse commence, il est plus à craindre qu'elle ne se charge d'occupation à cause de la peine des sens à demeurer en oraison. Mais il faut tenir ferme et y être aussi exact que dans le recueillement. J'ai connu une personne qui en faisait plus lorsqu'elle lui était la plus pénible, se roidissant contre la peine même. Mais ceci nuit à la santé à cause de la violence et de la peine des sens et de l'entendement qui, ne pouvant s'arrêter à aucun objet, étant privé de la douce correspondance qui le tenait auprès de Dieu, en a des tourments horribles. Jusque-là, que l'âme souffrirait plutôt les plus grandes austérités que la violence qu'il se faut faire pour s'arrêter sans soutien auprès de Dieu. Ici la peine est intolérable, et la nature en est comme dans la rage. Cette personne dont je parle passai quelque 2 ou 3 heures de suite dans cette pénible oraison, et comme Dieu lui avait donné beaucoup de courage, elle se laissait dévorer à sa peine, quoique elle sentît ses sens dans la rage. Et cette personne m'a avoué que l'austérité qui paraît la plus étrange lui aurait passé pour des délices plutôt que de rester ainsi. Et quelquefois, elle en faisait pour se soulager, ce qui n'était pas une petite infidélité. Mais comme cette violence si forte dans des sujets si faibles pourrait ruiner le corps et l'esprit, je crois qu'il est mieux de ne diminuer ni augmenter l'oraison pour les dispositions différentes. Ces sécheresses si pénibles et si douloureuses dont je viens de parler, qui passent parmi certains spirituels peu éclairés pour des états terribles et des épreuves de Dieu les plus fortes, n'appartiennent qu'à ce premier degré de foi et sont souvent causées par l'épuisement. Et cependant les âmes qui les ont passées croient être mortes et en écrivent et parlent comme du passage le plus douloureux de la vie spirituelle. Il est vrai qu'elles n'ont point l'expérience du contraire, et très souvent, l'âme n'a pas le courage de passer outre, quoique ce soit si peu de choses, car ici, dans ces peines qui sont comme un feu brûlant, l'âme y est bien laissée de Dieu, qui retire d'elle son secours aperçu. Mais ce sont les sens qui les causent, parce qu'étant habituées à agir, voir, sentir et goûter, et que, n'ayant jamais éprouvé des privations pareilles, et ne trouvant pas ailleurs où se repaître, ils sont dans un désespoir épouvantable. L'âme ne laisse pas ici d'être en vigueur. Elle se tient ferme, si elle a du courage. Sa peine lui est glorieuse, et elle n'est pas de longue durée, car les forces de l'âme ne sont pas alors en état de porter longtemps un tel poids. Elle retournerait en arrière, chercher de la nourriture, ou bien elle quitterait tout. C'est pourquoi notre Seigneur ne tarde guère à revenir. Quelquefois même, la fin de l'oraison ne se passe pas sans qu'il revienne. Et s'il ne vient pas dans la fin de l'oraison, il revient durant le jour d'une manière plus forte. Il semble qu'il se repente d'avoir fait souffrir l'âme, sa bien-aimée, ou qu'il lui veuille payer, avec usure, ce qu'elle a souffert pour son amour. Si cela dure quelques jours, ce sont alors des peines intolérables. Elle l'appelle doux et cruel. Elle lui dit, s'il ne l'a blessée, que pour la faire mourir. Mais cet aimable amant rit de sa peine et revient mettre sur sa plaie un baume si doux qu'elle voudrait toujours sentir de nouvelles blessures pour avoir toujours un nouveau plaisir dans une guérison qui lui rend non seulement sa première santé, mais même une santé plus abondante. Jusqu'ici, ce ne sont que des jeux d'amour où l'âme s'accoutumerait aisément si l'ami ne changeait de conduite. Ô pauvres âmes qui vous plaignez des fuites de l'amour, vous ne savez pas que ce ne sont que des feintes, que des essais, que des échantillons de ce qui doit suivre. Les heures d'absence vous marquent les jours, les semaines, les mois et les années. Il faut apprendre à vos dépens à devenir plus généreuse, à laisser aller et venir l'époux sans lui rien dire. Il me semble que je vois ces jeunes épouses, elles sont dans les dernières douleurs, lorsque leur époux les quitte, pour peu que ce soit, elles pleurent 3 jours d'absence comme s'il était mort, et elles se défendent tant qu'elles peuvent de le laisser aller. Cet amour paraît fort et grand, cependant il ne l'est nullement, c'est le plaisir qu'elles ont de voir leur époux qu'elles pleurent. C'est leur propre satisfaction qu'elles recherchent, car si c'était le plaisir de leur époux, elles seraient aussi contentes du plaisir qu'il prend, séparé d'elles, à la promenade, à la chasse et ailleurs, que de celui qu'il prend avec elles. C'est donc un amour intéressé, quoique il ne paraisse pas tel à l'âme. Au contraire, elle croit ne l'aimer que parce qu'il est aimable. Il est vrai, pauvres âmes, que vous ne l'aimiez que parce qu'il est aimable. Mais vous aimez pour le plaisir que vous trouvez dans cette amabilité. Cependant, vous voulez bien, dites-vous, souffrir pour l'ami. Il est vrai, pourvu qu'il soit témoin et compagnon de votre souffrance, vous n'en voulez point de récompense, dites-vous. J'en demeure d'accord. Mais vous voulez qu'il connaisse votre souffrance et qu'il l'agrée. Vous voulez qu'il s'y plaise. Y a-t-il rien de plus juste que de vouloir que celui pour qui l'on souffre le sache, l'agrée et y prenne plaisir? Oh, que vous êtes loin de compte! L'amour jaloux ne vous laissera guère jouir du plaisir que vous prenez à le voir se satisfaire de vos douleurs. Il vous faudra souffrir, sans qu'il fasse semblant ni de le voir, ni de l'agréer, ni de le savoir. C'est trop pour vous que d'être agréé, et quelle peine ne souffrirait-on pas à ce prix? Quoi, savoir que l'amant voit nos peines et qu'il y trouve un plaisir infini? Oh, c'est un trop grand plaisir pour un cœur généreux. Cependant, je m'assure que la générosité la plus forte de ceux de cet état ne passe point cela. Mais souffrir sans que l'amant le sache, lorsqu'il paraît mépriser et se détourner de ce que nous faisons pour lui plaire, n'avoir que du rebut pour ce qui semblait le charmer autrefois, le voir payer d'un froid et d'un éloignement effroyable ce que l'on fait pour son seul plaisir et ne point cesser de le faire, voir qu'il ne paye nos poursuites que de fuites effroyables, se laisser dépouiller sans se plaindre de tout ce qu'il avait donné autrefois pour gage de son amour, et que l'âme croyait avoir payé par son amour, par sa fidélité et par sa souffrance, non seulement sans voir dépouiller, sans se plaindre, mais voir enrichir les autres de ses dépouilles et ne pas laisser de faire toujours de même tout ce qui peut contenter l'ami, quoique absent, ne cesser de courir après, et si, par infidélité ou par surprise, on s'arrête pour quelques moments, redoubler sa course avec plus de vitesse, sans craindre ni envisager les précipices, quoique l'on tombe et retombe mille fois, que l'âme soit si crottée et si lasse qu'elle perde ses propres forces pour mourir et expirer par les fatigues continuelles. Ou, si quelquefois l'ami se retourne et la regarde, il lui redonne la vie et l'empêche de mourir, tant ce regard lui cause de plaisir, jusqu'à ce qu'enfin l'ami devienne si cruel qu'il la laisse expirer, faute de secours. Tout cela, dis-je, n'est point de cet état-ci, mais de celui qui suit. Il faut remarquer ici que le degré dont je viens de parler est très long, à moins que Dieu n'ait dessein de faire beaucoup avancer l'âme. Et plusieurs, comme j'ai dit, ne le passent pas.